finalement vôtre.
Avec Guillaume et Quentin.
Premier retour sur l'actualité hebdomadaire de cette semaine écoulée. Et vous le savez, on en a assez parlé. Il y a eu des votes aux États-Unis. Les résultats ne sont pas encore forcément tous connus. Et vous savez qu'il y a quelques procédures engagées. Mais on s'est intéressé sur un autre sujet à propos des Américains, basés en Suisse notamment, mais à l'étranger de manière générale. Comment font-ils pour voter? Et pour nous raconter ce beau récit et cette belle aventure, cette épopée même, on reçoit ce matin une binationale et collègue, Margot Reguin. Rebonjour Margot.
Mais rebonjour.
Vous votez aux États-Unis, vous l'avez fait cette année?
Oui, je l'ai fait cette année et d'autres années, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé en 2020, vu que c'est relativement récent. Avant de commencer, j'aimerais quand même juste vous dire que d'après le programme fédéral d'aide au vote, il y a 4,8 millions d'Américains qui vivent à l'étranger, dont 2,9 millions qui ont plus de 18 ans et qui peuvent voter. En Suisse, il y a 4 ans par exemple, on était près de 82 000 à pouvoir se prononcer. 6,7% de ces personnes l'ont fait, alors qu'ils étaient presque 72% aux États-Unis. Voilà, je pose le cadre, ça c'est dit. Donc, on disait, pour voter en Suisse et aux États-Unis, il faut vouloir et il faut s'inscrire, c'est la première étape. Si on a déjà habité aux États-Unis ou pas. Dans mon cas, ma famille proche réside en Caroline du Sud. J'y ai passé mes étés, mais aussi une année à mes 18 ans pour étudier dans une université de cet État du Sud. J'ai donc utilisé l'adresse d'un membre de ma famille, l'endroit où j'ai étudié, c'est un peu plus compliqué. Et donc oui, c'est possible de mettre l'adresse aux États-Unis alors qu'on n'y habite présentement pas. C'est ce que j'ai fait. On peut aussi inscrire une adresse qui n'est plus reconnue comme résidentielle. Ça arrive aussi.
Et une fois que tout ça est fait, alors c'est quoi la suite des opérations?
Alors, dans tout le processus, déjà, il faut être assez patient. Il faut envoyer cette candidature, en quelque sorte, aux États-Unis par mail ou par courrier, puis attendre. C'est ce que j'ai fait. Après quelques semaines, j'ai compris que mon stratagème avait fonctionné. J'ai obtenu un mail pour me dire que je pouvais voter. Ça veut dire que ma candidature, en quelque sorte, a été examinée et approuvée. Et puis ensuite, sur ce mail, il faut cliquer sur un lien et entrer un code. Et puis ensuite, c'est parti.
Donc tout ça se fait en ligne?
Ça se fait en ligne, oui, effectivement. C'était plus facile pour moi de faire ça que de prendre un avion aux États-Unis. Je l'aurais bien fait, hein, mais avec la quarantaine et tout, c'était plus compliqué. Donc oui, ça se fait en ligne. Et là, on se retrouve devant un bulletin. Donc il y a évidemment la grande question pour qui est-ce qu'on vote, hein, de manière indirecte, vu qu'aux États-Unis, on ne vote pas directement pour le président, mais via les grands électeurs. Donc on a le choix. Mais on vote donc pour le président, mais aussi pour le Sénat, la Chambre des représentants, et aussi des commissions scolaires ou des juges locaux. Là, je dois dire, pour moi, c'était un peu plus compliqué. J'ai essayé quand même de m'attacher à la tâche, de faire de mon mieux. Donc, j'ai regardé les différentes personnes qui se présentaient sur Internet. J'ai essayé d'évaluer pour à peu près qui je voulais voter.
Donc, vous suivez un petit peu l'actualité politique également de la Caroline du Sud.
J'ai essayé à distance, hein, mais je vous avoue que pour les commissions scolaires, c'était un peu plus compliqué. Donc, je me suis aidée des lettres magiques D et R en fonction de mes préférences politiques, qui m'ont un petit peu guidé. C'est comme ça que j'ai fait mon choix.
D'accord, à savoir démocrate et républicain.
Exactement, voilà. Okay. Les deux grands.
Et ensuite, quelle est la prochaine étape?
Ben, on attend, hein, toujours, finalement. c'est ce qu'on fait. Et puis, comme pas mal de monde, j'ai suivi les résultats sur les différentes chaînes de télévision. Pour moi, c'était plutôt CNN, hein, la semaine dernière. J'étais pas mal crochée dessus. Et puis, parfois aussi, la radio nationale que j'aime beaucoup, NPR. Et puis, sans surprise, on a appris que la Caroline du Sud a voté républicain. C'était vraiment pas une surprise. Ouais, ils le font tout le temps. Donc, mon vote a compté, mais finalement, pas tant que ça. Hein. Donc, le vote, les républicains ont remporté 55,1%. 43,5% pour les démocrates, parce qu'il y avait aussi d'autres candidats, des candidats libertariens qui ont obtenu 1,1%, des Verts aussi, 0,3%, encore le parti de l'Alliance avec 0,1%. Mais au final, c'est le ticket Donald Trump-Mike Pence qui a gagné les 9 grands électeurs en Caroline du Sud.
Donc ça, c'est une étape, mais c'est pas terminé. Hein. Il y a encore de l'attente ou comment ça se passe?
Oui, alors bon, on l'a vu, hein, tous les votes n'ont pas été entièrement comptés, on n'a pas les résultats dans tous les résultats. Il y a aussi le fait, on l'a dit, que les L'équipe de campagne de Donald Trump estime qu'il y a eu des fraudes, demande que des scrutins soient recomptés. Des accusations qui ne sont pas soutenues par des preuves, ni par des agents chargés de la sécurité des élections, qui ont pris la parole hier pour le dire. Si on met ça de côté, il faut encore dire que le collège électoral, qui compte 538 grands électeurs, se réunira le 14 décembre pour désigner formellement le président et le vice-président. Il est censé respecter le vote populaire dans son État, mais cela arrive que certains ne le fassent pas. C'est assez rare, hein, mais c'est arrivé sans changer changer le vote final. En l'an 2000, par exemple, alors que son État avait voté majoritairement pour Al Gore, une grande électrice s'est abstenue de voter pour le démocrate. Son opposant George W. Bush a quand même obtenu la majorité des voix avec 271 voix sur 538.
Et pas mal de choses peuvent encore arriver et pas mal de choses également se passent en sachant que l'investiture se tiendra en janvier. Avant de vous laisser partir quand même, Margot, vous nous rappeliez que le 3 novembre était aussi important pour le Congrès américain.
Oui, parce qu'il est en partie réélu lors de ce scrutin. S'il y a un brassage des cartes pour les 435 sièges de la Chambre des représentants, ce n'est pas le cas pour le Sénat qui compte 100 fauteuils, mais dont un tiers est remis en jeu. Pour le moment, les Républicains en comptent 50 et les démocrates 48. Il reste donc 2 sièges à remplir, si on fait les maths. Ils seront joués dans une double élection partielle en Géorgie, en janvier. Un État conservateur, ce qui va dire que ça ne va pas être aisé pour les démocrates de décrocher 2 sièges. S'ils parviennent, les 2 couleurs politiques seront représentées de manière équitable. Et en cas de vote, et pour les départager, c'est la voix du vice-président qui est demandée. En l'occurrence, la vice-présidente démocrate Kamala Harris, ce qui pourrait impliquer un renversement de la décision vers le camp bleu, le camp des démocrates.
Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour nous?
C'est assez important parce qu'aucune loi ne peut être adoptée aux États-Unis sans la Chambre haute, qui a aussi le pouvoir d'approuver les nominations du président, ses ministres, ses ambassadeurs, les juges, notamment la Cour suprême. Rappelez-vous, Donald Trump en a nommé 3 en 4 ans, dont dernièrement Amy Coney Barrett, qui a solidement ancré le temple du droit américain à droite. Je précise aussi que les juges sont là à vie. Donc les enjeux liés au Sénat et sa majorité de sièges sont immenses.
Merci beaucoup Margot Reguin pour ces précisions à propos du vote aux États-Unis depuis l'étranger, notamment la Suisse. À tout à l'heure, on se revoit à 7h.
À tout à l'heure.